Musique du monde sur RFI avec Laurent Salloir et Takim Fatalaoué.
Musique du monde.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Un coin de paradis, un endroit irréel de beauté.
Oui, c'est vrai, l'endroit est irréel, c'est un paradis. Un paradis de beauté, c'est l'abbaye du Thoronet, une abbaye cistercienne du XIe siècle, située dans le sud de la France, dans le Var, que des moines maçons, architectes, musiciens vont construire 80 années durant. L'acoustique du lieu et sa réverbération de 12 secondes attisent les convoitises des sorciers du son, normal. Les 7 et 8 mai derniers, Pierce Fetchini a présenté la première édition du festival Les Voix de l'Autre, avec des artistes venant d'Estonie, de Palestine, d'Algérie, d'Italie, de Guinée-Conakry et même de France. Et puisque l'abbaye est dans un écrin de verdure, avec son cloître, ses bois, son abbatiale, les artistes ont déambulé d'une salle à l'autre, façon procession. Puis il y avait des comédiens aussi qui ont lu des poèmes, comme Charles Berling et Leïla Chaïd, qui n'est pas comédienne, mais une ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Vous venez ?
Un coin de paradis. Coin de paradis caché dans des forêts de pins, de chênes-lièges, vraiment de rochers qui ont l'air d'avoir été la source où les moines, il y a 1000 ans, sont venus construire cette abbaye cistercienne qui est d'un minimalisme, d'une sobriété extraordinaire. La croix qui est dans la chapelle de l'abbaye vous fait fondre parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas d'artifice. J'adore cette période cistercienne parce qu'elle est justement d'une grande simplicité, d'une grande nudité, d'une grande spiritualité parce que ça va ensemble. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire que mes amis organisaient ce festival des voix de l'autre, faire ici dans une acoustique unique parce que Pierce Fetchini, qui est un très grand musicien, auteur, compositeur, interprète, me dit que c'est l'acoustique la plus belle qu'il ait jamais eu à faire.
Pierce Fetchini, vous sortez de scène durant 48 heures et encore on n'a pas vu les préparations, on n'a pas vu les résidences. Vous avez été à la fois musicien, directeur artistique et compositeur avec une création. Alors, il vous reste quelques neurones?
Deux ou trois peut-être.
Les meilleurs.
Oui, c'était intense, mais super. La prochaine fois, je serai spectateur.
Et je me précipite sur Jean-Marc Bourret, qui est l'administrateur de l'abbaye du Thoronet, qui n'aime que la musique classique.
Mauvaise langue.
Oui, c'est vrai, mais c'est quelle est la place de la musique dans ces monuments historiques?
Ici, au Thoronet, elle est très importante depuis longtemps. Il y a eu pendant 30 ans un festival dirigé par Dominique Vélard consacré à la musique grégorienne. Ce festival s'est arrêté en 2018. Et depuis mon arrivée, mais mon prédécesseur avait commencé aussi, nous essayons de relancer cette vie musicale à l'abbaye du Thoronet.
Quelle est la musique la plus appropriée pour l'abbatiale de l'abbaye du Thoronet?
Alors, vous faites bien de poser la question, parce qu'on lit partout que l'acoustique est exceptionnelle. C'est vrai qu'elle est impressionnante, parce qu'il y a une réverbération de 12 secondes. Donc cela interdit évidemment d'aborder certains répertoires, les plus larges d'ailleurs, hein. Elle n'est adaptée qu'à deux types d'époques, la musique grégorienne et la musique contemporaine, créée spécialement pour des acoustiques très réverbérantes. Mais tout le répertoire de la musique baroque du 19e et du début 20e nous est interdit. En revanche, on a beaucoup d'autres espaces dans l'abbaye qui s'y prêtent.
Pierce Faccini, vous êtes donc à l'abbaye du Toronnais. Ça veut dire qu'il y a une acoustique particulière. Dans cette abbaye, on aime bien les musiques anciennes et le chant grégorien. Ça va très très bien avec l'acoustique. Ouais. Alors pour le folk et les musiques d'aujourd'hui, comment vous vous êtes débrouillé?
Disons que la commande pour la suite de morceaux que j'ai créés pour jouer avec Lucie Antunes, disons que on pourrait considérer que c'est assez loin de la folk. Enfin, je me suis inspiré d'Arvo Part, de chants grégoriens, de musique modale, de makram, de musique arabe. C'est une acoustique, disons que l'abbaye est vraiment un peu le joyau, quelque part, sur la couronne de cette tradition d'architecture pour le chant. L'abbaye de Toronnais comme l'abbaye de Silvacane sont un peu les deux chefs-d'œuvre acoustiques de l'architecture cistercienne. Donc c'est vraiment des endroits extraordinaires. Donc c'est dur à comprendre, en fait, parce qu'on a l'impression, on parle souvent d'églises qui ont des grosses réverbes. C'est pas ça. Cette abbaye, elle est construite pour que la façon dont la note va mourir et se briser dans l'espace, comme de la poussière, gold dust, c'est très très particulier. C'est-à-dire que on chante une note et ensuite on va l'entendre pendant plusieurs secondes se briser dans l'espace. C'est comme presque de la musique électronique où on met un filtre et on met un délai et on met une grosse réverbe. Et du coup, la note, il y a plein de choses qui se passent pendant que la note est en train de mourir dans l'espace. Et donc là, c'est le cas de cette abbaye. C'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre. Et il n'y a rien d'incompatible avec de la création aujourd'hui. C'est juste qu'il faut repenser. C'est pas parce qu'il y a une réverbe de 12 secondes qu'il faut mettre que du chant grégorien. Le chant grégorien est extraordinaire dans ces lieux, évidemment, ça on le sait. Mais n'importe quel musicien avec un peu de curiosité, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup, serait ravi de faire comme moi et de créer une œuvre ou une suite de morceaux avec de l'improvisation, comme on a fait à Lucie pour cet espace extraordinaire qui est le Toronnais.
Et alors, comment s'appelle cette composition ?
Everything is nothing, nothing is everything.
Pierce Faccini, comment vous êtes organisé avec la percussionniste Lucie Antunes pour ce morceau ?
J'ai écrit les morceaux, J'ai simulé un peu ce que j'imaginais du vibraphone, mais je lui ai dit, voilà, on va se rencontrer dans le lieu, on va partager cette aventure, on va passer 2 jours, on va expérimenter, improviser. Et Lucie, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je l'adore. Elle a une façon de vivre la musique quand elle joue qui me touche énormément. Elle est vraiment dans le moment présent de la musique, et corporellement, dans son attitude, dans comme elle est dans son corps, dans son énergie, comme elle vit la musique, c'est quelque chose que je ressens aussi. Et voilà, elle m'a fait confiance, je lui ai fait confiance, et on a partagé un moment où on était très à nu dans cette abbaye en jouant sur un répertoire aussi minimaliste que ça. Mais voilà, je les remercie tous parce qu'ils m'ont fait confiance et je crois qu'on a touché beaucoup de gens et c'est l'essentiel.
Everything is nothing, nothing is everything, darling. Pierre Schwaccini avec Lucie Antunes était à l'abbaye du Thoronet, la création. On va faire un petit peu d'histoire puisqu'on est dans une abbaye avec Karine Mangin qui guide au Thoronet.
Les dates de construction, c'est 1160-1240. Donc 1240, Notre-Dame du Thoronet, officiellement ouvert.
L'abbaye du Thoronet a été active avec des moines pendant combien de temps ?
Plus de moines depuis 1791. Il restait 7 moines très âgés qui ont été raccompagnés, la plupart sur l'île de Lérins. Dès lors, l'abbaye a servi de carrière de pierre, hangar pour les animaux, hangar pour matériaux de jardinage, restaurant. C'est Prosper Mérimée qui a visité l'abbaye sur dénonciation du préfet en 1840 et qui a œuvré pour son inscription au titre des monuments historiques. Et l'abbaye du Thoronet fait partie de la toute première liste, la liste de 1841, qui permet à l'État de protéger. Alors l'État avait conservé l'église et dès lors, les bâtiments qui entouraient l'église ont été rachetés par l'État et depuis le milieu du XXe siècle, elle est gérée par le Centre des Monuments Nationaux. The spell, the hissing sound, mute the prayer, I'm tied and bound. Break the spell, the well and down, clear the pathway I've found.
Pierre Schwaccini, vous êtes un habitué des lieux de culte. Lorsque vous n'êtes pas en tournée à l'international, vous aimez squatter les églises et faire des concerts et inviter des gens.
J'adore l'acoustique. J'adore cette intensité qui est créée par le fait qu'on n'a aucun filtre. Et on est face au public et surtout, on est encore une fois dans un lieu même comme celui-ci, il a une très belle résonance. Je crois que c'est l'Oratorium ici. Donc.
Alors c'est la salle capitulaire.
Ah, salle
c'est
capitulaire.
La salle où les moines avaient l'habitude de parler de questions temporelles et spirituelles.
Voilà, c'est ça. C'est un lieu où il y a une petite résonance, mais la résonance, elle est juste faite pour porter la voix parlée, pas chantée. Qui fait que, par exemple, si on veut jouer ici, bah, je pourrais demander à Malik Ziad, avec son gombri, de venir et de faire un répertoire de musique gnawa, par exemple, et ça marcherait très très bien, puisque la reverb, elle est très très courte, microsecondes. Donc tout ce qui est très rythmique, ça marcherait super ici. Évidemment, ce genre de répertoire, ce serait une catastrophe dans l'abbaye.
Ah, Malik Ziad, le frère de Karim Ziad.
Ça va, super.
C'est la première fois que vous venez à l'abbaye du Toronnais ?
Oui, ah, c'est un plaisir. On s'est régalé à jouer avec cette magnifique acoustique. C'est une merveille, c'est une merveille.
Dès qu'on voit Pierce Fatini quelque part, vous n'êtes pas loin derrière, ça y est.
Je le dis toujours, c'est une belle amitié et j'apprécie beaucoup de travailler avec Pierce parce que c'est un voyageur, un explorateur.
Les invités, les musiciens qui sont venus ont pris un risque fou, c'est-à-dire de travailler sans retour, en acoustique complet.
Parce qu'ils me font confiance aussi, mais avant le fait qu'ils me fassent confiance, c'est important de souligner effectivement que ce sont des très très bons musiciens et des musiciens qui ont l'oreille, une vraie oreille, une vraie flexibilité, c'est-à-dire une façon de se mettre un peu hors des habitudes et de vivre l'expérience pleinement. Malik, c'est un habitué parce que c'est un frère. Pour moi, on joue ensemble depuis 6 ans et on joue partout ensemble. Il me connaît très bien, il connaît ce genre de délire. Et il me fait absolument confiance. Djene Kouyaté, c'est pas la première fois qu'on chante ensemble. On a fait pas mal de choses. Et Djene, elle est extraordinaire parce que c'est une griotte guinéenne. Et elle participe à une aventure qui est loin de ses habitudes, loin de ses zones de confort. Quand je demande à Djene de chanter a cappella sur un bourdon dans une abbaye cistercienne où on a plutôt l'habitude d'entendre des moines chanter le grégorien, d'entendre une voix guinéenne, une griotte dans la tradition mandingue, chanter de cette façon-là, c'est extraordinaire.
Je me présente Guéné Kouyaté, fille de Guigeli Kemo Kouyaté et Hadjami Kamisoko, les deux icônes de la musique guinéenne. Je suis issue d'une famille griotte, de mère au père. Donc aujourd'hui, je suis la trace de mes parents jusqu'à ce que je suis en arrivée à ce nouveau aujourd'hui.
Comment vous avez été approchée pour participer à cette première édition du festival Les Voix de l'Autre ?
J'ai fait plein de choses avec Perse. Sur son projet, la Perseuse, c'est moi qui ai fait ce morceau, c'est moi qui lui ai chanté. Donc Perse, c'est à travers Malik que j'ai connu Perse, parce que j'avais fait un concert avec Malik Ziad, qui a été un grand musicien que j'ai connu. Donc il a aimé ma voix, donc il me dit « Jenny, je veux vraiment que tu travailles avec Perse ». Donc on a fait un programme à Paris, donc j'ai rencontré Perse. Perse, il a fait ce morceau, après il m'a dit « Jenny, vraiment, je veux que tu le chantes ». Donc on a fait, et ça a été un grand succès. Donc aujourd'hui, il y a Perse, à tout ce qu'il fait, il me propose dedans.
Vous vivez en France ?
Je vis en France,
depuis
oui.
Combien de temps ?
Ça fait 8 ans.
8 ans ?
Oui. Ces 8 ans en France, j'ai pas mal tourné avec des grands artistes, tels que Mori Kanté. C'était mon oncle. Mori Kanté est le grand frère de ma mère. Donc c'est mon oncle. Mori Kanté, c'est un grand musicien qui est décédé. Je dis paix à son âme. Je tournais avec Mo Kouyaté. C'est un grand musicien. Pierre Fassigné et plein d'autres artistes. Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tout dire.
Le morceau que vous avez interprété s'appelle Confiance, vous le chantez en malinké, c'est un
oui,
morceau
Oui, je le chante en malinké, Confiance. Par contre, j'ai composé cette chanson parce qu'au jour d'aujourd'hui, on fait confiance à des gens qui ne sont pas comme nous. Donc, Confiance, j'ai été beaucoup trahi par des amis, je fais confiance aux gens. Donc, j'ai composé ce test. Après, ça m'a dit, Boy Guéné, j'aime bien ce test. Donc, j'ai dit, faisons pas confiance aux gens ensemble.
Alléluia.
Musique du monde.
On voudrait aussi remercier et présenter, après leur performance, Leïla Chahid.
Je suis très heureuse de modestement participer à la lecture de quelques poèmes de notre grand poète décédé, Mahmoud Darwish, qui est sûrement un des plus grands poètes aujourd'hui, poète tout simple, pas de la Palestine ni du monde arabe, mais poète, avec une virtuose qui joue le qanoun. Le qanoun étant cette harpe plate qui est très présente dans l'histoire de la musique arabe classique. Et cette jeune fille, figurez-vous qu'il fallait arriver à Toronto pour rencontrer cette extraordinaire Christine Zayed, qui a à peine 30 ans, qui a étudié la musique à Ramallah où habitent ses parents, qui est venue en France, qui a réétudié au conservatoire de musique et qui est maintenant enseignante au conservatoire. Elle enseigne le qanoun et la musique arabe classique. Elle dit qu'elle a de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent à cette musique arabe. Je pense que c'est un lieu qui réconcilie avec la violence du monde dans lequel nous vivons. Et je parle de l'Ukraine encore même avant la Palestine, parce que c'est terrible de voir que les êtres humains s'habituent à aux images de violence, de massacres, de déshumanisation des autres. Et à force de voir les images depuis 2 mois et demi des Ukrainiens, j'ai l'impression que ça devient presque normal de voir cette destruction énorme. Et donc, ce lieu qui est un lieu pour la paix des êtres, pour la coexistence, arrive avec ce festival au bon moment. J'espère surtout qu'ils pourront le répéter dans d'autres abbayes cisterciennes, parce que c'est trop beau pour être joué seulement une fois.
Christine Zayed, c'est une musicienne que j'apprécie énormément, qui est extrêmement talentueuse, qui me touche énormément. Et Christine, c'est aussi une musicienne qui joue d'un instrument où l'acoustique et la résonance de son instrument est primordiale. Donc, de lui demander de jouer sans amplification, quelque part, c'est comme un musicien classique. Un musicien classique, normalement, il joue sans amplification. Donc quelqu'un comme Christine, je pense qu'elle est absolument ravie de pouvoir simplement jouer son canoun, sans une reprise de micro, sans un retour. Mais je la remercie quand même d'avoir joué le jeu, ça c'est sûr.
Je lui dis, mais où tu as trouvé Christine Zayed? Parce que je ne l'ai jamais entendue, je ne la connais pas, je n'ai même pas entendu parler d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui est passionné par les autres musiques que celles qu'il compose lui-même. Il est à la recherche et il sait où trouver les jeunes talents. Ce qui est le plus beau ici, c'est que le plus vieux, c'est Pierce. Tous, ils ont moins de 30 ans. Et donc, ça vous donne une idée. Et ce n'est pas religieux, c'est spirituel et artistique. Je crois qu'il n'y a vraiment personne parmi eux qui sont des pratiquants de leur religion, quoi qu'elle soit juive, musulmane ou chrétienne. Mais je pense que dans la vie moderne, on a besoin d'une contemplation, d'une méditation, face aux questions du monde moderne qui est complètement chamboulé.
Christine Zayed, ça fait combien de temps que vous jouez du canoun ?
Ça fait 20 ans.
Comment s'est passée votre formation de musicienne ?
J'ai étudié à Ramallah, oui. J'ai étudié au conservatoire Edward Said, conservatoire national de la Palestine. Je suis d'une famille mélomane, en fait. J'ai mes deux frères qui sont artistes, musiciens. J'ai le canoun, je l'ai vu la première fois, j'avais 4 ans. Je crois, 4 ou 5 ans.
Il était plus grand que vous ?
Oui, c'est sûr. Il l'est toujours, je pense.
Bien sûr.
J'étais fascinée parce qu'à chaque fois, on entend un canoun dans une chanson ou un morceau, ça brille en fait. Ça brille, ça change tout.
Vous êtes en France depuis 8 ans maintenant. Vous êtes professeur à Créteil et à Gennevilliers.
Depuis 2-3 ans en fait.
Vous avez joué à ce festival qui s'appelle Les Voix de l'Autre. Mm-hmm. Et on vous a vu en trio avec une guitariste algérienne et Leïla Chaïd qui faisait une lecture. Mm-hmm. Leïla Chaïd, c'est comme Mahmoud Darwish, ça représente un pan de l'histoire et la Palestine. Mm-hmm. Est-ce que vous aviez déjà rencontré Leïla Chaïd avant ou pas ?
Non, c'est la première fois. J'ai vu Leïla en vidéo, mais c'est la première fois que je rencontre Leïla, oui. En fait, c'est incroyable parce que la première fois que j'ai vu Leïla, j'étais étonnée, j'étais vraiment fascinée de fait qu'il y a une femme militante, activiste, qui est forte, qui parle de moi, de ma vie quotidienne, en fait, de mon histoire aussi, et de mon futur, bien sûr. Oui, j'ai rencontré Mahmoud Darwish très brièvement quand j'avais 7 ans. J'ai chanté sur scène et il a lu ses poèmes. À l'époque, je comprenais pas, en fait, mais après, j'ai découvert que waouh, c'est une histoire merveilleuse, quoi. En fait, moi, je suis très attachée à tout ce qui est histoire, tout ce qui est antiquité, en fait. Personnellement, je me sens en paix ici, en fait. Je me sens en paix, je respire mieux, je joue avec beaucoup d'esprit, beaucoup de passion, en fait, ici. خليت قلبي عالدرج عالدرج سافرت في ليلة قمر ليلة قمر خليت قلبي عالدرج
أنا حطيت قلبي في جدائلكم
Les musiciens qui étaient avec vous, vous les connaissiez depuis longtemps ?
Non, on s'est rencontrés ici il y a 3 jours.
Vous plaisantez ?
Pas du tout.
Comment se fait-il qu'il y ait autant de complicité ?
En fait, des fois on ressent la connexion humaine avant tout. Et s'il y a ça, il y a tout après. On peut jouer ensemble, on peut...
Vous faites partie d'une formation en France qui réunit plusieurs femmes, j'allais dire de la Méditerranée, c'est le groupe Atin.
Atin, oui.
Oui, avec Aïda Nosrat qui est au chant. Vous êtes produit l'an dernier au sud d'Arles. Alors, c'était assez drôle, vous étiez sur la nécropole, c'est mis à pleuvoir, donc des gens se tordaient avec des parapluies pour protéger les artistes dont
c'était
vous faisiez
magique,
partie.
En fait. Ouais.
Est-ce que vous allez entamer une carrière solo ? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose au niveau discographique vous concernant, Christine Zayed ?
Oui, bah, cette année, je vais sortir mon album solo. Canon chant et j'inviterai des musiciens, des amis qui vont jouer dans l'album aussi.
Vos compositions ?
Mes compositions, oui.
Vos textes ?
Pas mes textes, non.
Non ? Vous allez prendre des auteurs
oui.
plus fleuris ?
Par exemple, aujourd'hui, j'ai chanté une des chansons de l'album par Hussein Barghouti, un poète palestinien.
Vous allez chanter du Mahmoud Darwish alors ?
Je crois que oui, je crois. On verra.
Vous êtes très minimaliste dans votre façon d'être à la musique, je parle physiquement, et pourtant de ce corps sort parfois une voix extrêmement déchirante. Je ne sais pas si vous vous êtes vu marcher dans l'abbatiale, on aurait dit un prêtre, lors d'une cérémonie.
Ouais.
Vous arrivez d'où ? De quelle planète ? De quel siècle, Pierre Swatini ?
Prêtre, je ne sais pas, mais quelque chose de mystique, oui. J'aime bien ramener aussi une énergie presque un peu chamanique, l'idée de la voix habitée, quoi. C'est-à-dire l'idée que c'est la vie elle-même qui s'empare de nos cœurs et de nos voix, et c'est la vie qui s'exprime. Se libérer la voix, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir le vivre. Et voilà, je fais ça depuis des années et des années. Je vieillis, mais je continue à expérimenter autant que depuis toujours, même, peut-être même plus qu'avant. L'aspect mystique me plaît beaucoup. Je trouve qu'en France, on a l'opportunité... qui n'est pas souvent le cas dans d'autres pays où les lieux de culte sont souvent sous l'emprise de forces un peu conservatrices. Et je trouve qu'en France, c'est quand même incroyable de pouvoir présenter les voix de l'autre et avec tout ce que ça représente comme programmation de gens et de musiciens d'autres pays, de d'autres traditions, d'autres religions, de rassembler tout ça dans l'abbaye du Tournai, dans un lieu de culte. Donc, mais moi, de mon côté... On pourrait considérer que je fais de la musique mystique, mais aussi pour les non-croyants, comme moi, des gens qui ne croient pas, mais qui sont mystiques. Je pense que c'est une musique qui... On a le droit d'être mystique, même si on ne croit pas en Dieu, en fait.
On a le droit d'être dans une abbaye, même si on ne croit pas en Dieu.
Exactement. Je trouve ça aussi... Voilà, je remercie aussi les gens qui s'occupent de ces lieux de culte d'avoir l'ouverture, parce que ce n'est pas toutes les religions et tous les lieux de culte qui accepteraient qu'on chante un répertoire non sacré au sein de ces pierres. Et là, on le fait. Après, moi, je considère que ce que nous, on fait est très adapté au lieu et même dans l'esprit, même si ce n'est pas de la musique chrétienne, on pourrait dire.
Manana Bouna Mahmoud, du poète palestinien Mahmoud Darwish. Qui suis-je sans exil ?
Pour ce festival, Les Voix de l'Aude, Pierre Swatini a réuni des musiciens, des chanteurs, mais aussi des lecteurs. Alors, chez les musiciens, on a Christine Zayed, Malek Ziad, Kaoutar Meziti, Jenny Kouyaté. Chez les comédiens, il y a Charles Berling et Leïla Chahid. Enfin, Leïla Chahid, ce n'est pas tout à fait une comédienne, ce serait plutôt une ambassadrice.
Leïla Chaïd, ça fait un petit temps qu'on se connaît et puis qu'on se parle. Et puis quand on a voulu monter le festival, on s'est parlé. Donc on était vraiment ravis qu'elle puisse être avec nous. J'ai trouvé ça peut-être encore plus touchant que Leïla récite les poèmes de Mahmoud Darwish, plus qu'un comédien. Et en même temps, c'était génial d'avoir Charles Berling, donc, qui, avec le Théâtre Liberté à Toulon, est très ancré dans cette région. Donc c'était super d'avoir sa voix et sa présence hier. L'aspect mot parlé me plaît beaucoup parce que c'est un peu mes débuts en fait. Quand j'étais dans mes 20 ans, j'accompagnais beaucoup de poètes sur la scène londonienne, sur le spoken word. Donc l'idée de combiner les voix parlées, les voix chantées me plaît. Voilà, on a expérimenté aujourd'hui avec un parcours pour que les gens puissent déambuler dans des espaces différents du Toronais, présenter les mots parlés, les mots chantés, dans un vrai esprit d'écoute qui est aussi propre au lieu.
Quels sont les poèmes ou les extraits de poèmes que vous allez interpréter lors de ce festival ici à l'abbaye du Toronais, Leïla Chaïd?
Vous savez, les éditions Actes Sud qui participent à ce festival très beau, qui ont eux-mêmes un festival de musique magnifique à Arles, ont édité pratiquement 90% des poèmes de Darwish, mais aussi beaucoup de prose, magnifiquement traduit par Elias Sambar et édité par Farouk Mardambé qui travaille pour Actes Sud. Et donc, dans un des recueils, qui est un choix de différents poèmes, de différents recueils, moi je trouve qu'une des plus belles choses que Mahmoud a su décrire, c'est l'exil. L'exil comme une manière de prendre de la distance par rapport à soi. Comme j'ai dit, ça veut dire de s'éloigner d'un nationalisme étriqué pour parler de choses qui sont plus universelles. L'homme, sa destinée, son humanité, sa rencontre avec l'autre, l'amour, la coexistence, l'aide, la fraternité. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on apprend en exil. Comme nous sommes dans une période où les migrants, tous les migrants, qu'ils viennent d'Ukraine aujourd'hui parce qu'il y a la guerre, ou ceux qui viennent d'Afrique parce qu'ils crèvent de faim, ou ceux qui fuient la guerre en Syrie et en Afghanistan, je pense que c'est un défi énorme qui effraie beaucoup de gens. On a vu combien dans les campagnes des élections, ce sujet était important, mais très bien après remis à sa place, grâce à Dieu. Mais il faut quand même, hier, il y avait des migrants ukrainiens qui écoutaient la répétition et des migrants irakiens et syriens qui ont entendu qu'il y avait ce festival et comme ils ne peuvent pas venir au festival, ils sont venus aux répétitions. Ils étaient bouleversés. Et donc, je dirais que j'ai choisi, avec Pierce, bien sûr, parce qu'il faut que la musique et le poème marchent ensemble. Les deux premiers étant des très beaux poèmes sur l'exil et le dernier, un très beau poème sur l'amour et sur le bonheur, pour garder justement l'espoir devant nous, comme aurait souhaité Mahmoud Darwish. Darwish disait dans un très beau texte qu'il a lu lorsqu'en 2002, une délégation de prix Nobel était venue le soutenir parce qu'il était assiégé avec Arafat à Ramallah. Il leur dit dans la première phrase du texte qu'il leur lit, « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Aidez-nous à conserver cet espoir. » Et je trouve que c'est très beau de regarder une nouvelle génération parce que ça porte de l'espoir. La mienne ne va pas avoir de solution, mais j'espère que celle de Christine et de tous les jeunes qui ont 30 ans et moins pourra arriver à réellement vivre avec tous ses voisins.
Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'un aveu, d'un secret que Mahmoud Darwish vous aurait confié et qui parle de la puissance de la poésie?
Ah oui, j'ai une très belle histoire. Mahmoud Darwish avait beaucoup de pudeur. Contrairement à ce qu'on pense, il était très timide. C'est un ami que j'ai connu le premier jour où il a quitté la Palestine et qu'il est arrivé au Caire. Je l'ai connu au Caire en 71. Puis, il a quitté le Caire parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il soit là où les Palestiniens étaient. Et donc, il est venu au Liban. Au Liban, il n'avait jamais été au Liban parce qu'il avait un passeport israélien uniquement, mais Abd al-Nasser lui a donné un passeport égyptien. Donc, il est venu avec son passeport égyptien. Et un jour, une école de bonnes sœurs dans le nord du Liban, une école chrétienne catholique de bonnes sœurs, organise un concours de poésie. Et elle veut mettre comme président du jury Adonis, le grand poète syro-libanais. Et elle invite Mahmoud Darwish, qui vient de s'installer à Beyrouth, à les accompagner. Et donc, ils vont en voiture vers le Akkar, vers le nord du pays. Et sur la route, ils voient des jeunes filles qui font du stop. Ils s'arrêtent avec leur chauffeur et ils disent « Nous allons au concours de poésie de l'école des bonnes sœurs. Est-ce qu'on peut monter avec vous ?» Et ils leur disent « Bien sûr, vous montez avec nous. » Ils disent « Il paraît qu'il y a Mahmoud Darwish qui va venir. » Et lui, il est assis à côté d'eux, mais ils ne connaissent pas sa tête. Adonis n'était pas très content parce qu'on parlait de Mahmoud Darwish plus que de lui. Mais c'est parce que c'était une nouveauté. Il sortait d'Israël, il avait été en prison, il était considéré comme le poète de la résistance. Ils arrivent à l'école et la responsable de l'école vient et c'est une bonne sœur. Elle dit « Qui d'entre vous est Monsieur Darwish ?» Alors, bien sûr, Mahmoud dit, c'est moi. Est-ce que je peux vous parler en privé? Elle l'amène dans une salle en privé. Elle lui dit, voilà, ce que je vais vous dire est en même temps très triste et très beau. Moi, j'étais en poste chez les Bonnes Sœurs à Jérusalem en 67. Nous sommes en 71. Et comme la guerre a été terrible à Jérusalem-Est en particulier et qu'on n'était pas équipés pour secourir les gens et les blessés, on nous a demandé à nous, les bonnes sœurs, de nous occuper, en tout cas des blessés qui avaient déjà été opérés ou soignés ou qui étaient en phase de mort presque. Et moi, on m'a mis à côté d'un jeune homme qui était d'une beauté, il ressemblait à Jésus-Christ. J'étais près de lui et je voyais que sa vie partait comme ça, par petits bouts, qu'il devenait de plus en plus pâle, de plus en plus blême. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour calmer votre souffrance? Vous voulez de l'eau, vous voulez des cigarettes, je vais aller. La ville était encore sous occupation militaire. Et le jeune homme, qui n'avait pas plus de 20 ans, lui dit, la seule chose que je veux, c'est un recueil de poèmes d'un poète qui s'appelle Mahmoud Darwish. S'il vous plaît, allez chercher une librairie ouverte et achetez-moi n'importe quel recueil de Mahmoud Darwish. Rappelez-vous Mahmoud Darwish. Elle dit, je ne connaissais même pas le nom Mahmoud Darwish. Je cours, je cherche qu'il y a une librairie ouverte et je reviens avec un recueil, parmi ses premiers recueils. Et je lis jusqu'à son dernier souffle. Et depuis ce jour, je cherche cette plume qui est d'une telle force spirituelle, poétique, que le choix de ce jeune homme qui s'est battu pour sa ville Jérusalem a été d'entendre ses poèmes juste avant de mourir. Mahmoud était tellement bouleversé par cette histoire qu'il l'a très peu racontée, très peu. Nous, comme on était très amis, j'ai eu la chance de l'entendre lorsqu'il est revenu directement, mais il ne l'a plus jamais raconté. Et lorsque je dis, mais pourquoi tu ne racontes une magnifique histoire, pas seulement sur toi, sur la force de la poésie, il me dit, c'est trop de responsabilité sur mes épaules. Je ne peux pas. J'ai donné une telle importance à la poésie que j'ai peur de ne pas être à la hauteur.
Alors, parmi les gens qui ont participé à cet événement, qui vous ont aidé à le monter, il y a Éric de Kernel qui est auteur, qui s'occupe d'une collection et puis qui a écrit un bouquin, qui, entre autres, sur l'abécédaire de l'écologie heureuse. Cyril Dion devait venir aussi, mais pour une histoire de Covid, il n'est pas venu. Là, c'est le mouvement Colibri, encore l'écologie. L'écologie fait partie de l'ADN de ce festival. Est-ce qu'on fait attention à son empreinte carbone? De quelle manière?
Bah, moi, j'aimerais bien... là, on lance une aventure, ce qui n'est pas toujours évident, parce que sur un festival comme ça, au début, on court toujours un petit peu après l'argent pour le créer. En tout cas, moi, ma volonté, c'est clairement d'associer tout ce qui peut rassembler une forme d'écologie et un regard sur l'écologie, un regard sur la nature avec la musique, parce que ça me parle vraiment. Plus on arrive à aligner la pratique du festival sur cette pensée-là, ça me plairait beaucoup. On essaye de faire attention. Je pense aussi qu'on pourrait considérer que la première démarche, c'est déjà qu'on utilise très peu d'électricité, très peu d'énergie, puisqu'on fait de la musique acoustique. On n'est pas comme un gros festival qui va dire « non, on est le festival écologique, mais il y a des batteries partout ». Il y a des gros sound systems, nous on n'a pas ça. La majorité des performances ont été acoustiques. Et donc ça c'est déjà une démarche intéressante. Après il y a aussi la notion d'écologie dans le sens plus large du terme, l'écologie intérieure, l'écologie de l'écoute, ou l'écologie qui inclut comment on ressent et comment on vit avec l'autre, comment on respecte l'autre. Et pour moi, l'humain fait partie du vivant, le son et le chant des humains fait partie du vivant. Par contre, il n'y a pas d'hierarchie. Jenny Kouyaté, c'est une voix magnifique, mais ce n'est pas plus belle ou plus beau qu'un chant de rossignol. Et le chant de rossignol, pour moi, n'est pas plus beau que Jenny Kouyaté. C'est pareil, c'est le vivant. Donc l'écologie, pour moi, c'est aussi la connexion avec le vivant, toute sa forme.
Comme si, quelque part, dans la culture, étant donné la dureté et l'injustice des réalités qu'on vit, des réalités écologiques, des réalités sociales, économiques, de la pauvreté, de la misère, comme si la culture venait un peu mettre un baume sur tout ça. Parce que la culture ne reconnaît pas ces différences de classe, ni de revenus, ni de moyens. Et elle est ouverte à tous. Alors espérons qu'elle continuera à l'être et qu'il y aura de plus en plus de projets comme ce magnifique Festival des Voix.
C'est fini, mais non, c'est une blague. Le festival est fini. On était à l'abbaye du Thoronet dans le Var, dans le sud de la France, pour la première édition Les Voix de l'Autre. Alors, bonne nouvelle, il y aura une autre édition, mais en 2023, du 5 au 7 mai. Je suis sûre que vous allez bien vous en souvenir. Le son dans l'abbaye, dans l'abbatiale, dans le réfectoire, dans le cloître, était signé Julien Taillefer et Dominique Fian. Merci, au revoir.